Radio Okapi. Le journal présenté par Pascal Massirika.
Au sommaire de cette édition, le président sud-africain Cyril Ramaphosa promet de vrai pour faire taire les armes dans l'est de la RDC. Promesse faite ce jeudi à l'issue de la 12e session de la grande commission mixte tenue à Kinshasa entre la RDC et l'Afrique du Sud. Avec l'appui de la MONUSCO, la CENI mène actuellement en Ituri une campagne de sensibilisation sur le processus électoral en RDC. Objectif affiché, impliquer les habitants de cette province à prévenir d'éventuelles violences et la manipulation des acteurs politiques. Notre invité, c'est le directeur provincial de la SNEL au Haut-Katanga. Moutombo Ngoy s'est plaint du vol des câbles électriques haute et basse tension dans son ressort. Il plaide en définitive pour la protection de ce patrimoine. Madame, Messieurs, bonsoir. En visite officielle en RDC, le président sud-africain promet de travailler pour faire taire les armes dans l'est du pays. Cyril Ramaphosa l'a dit ce jeudi après-midi au cours d'une conférence de presse conjointement animée avec son homologue Félix Tshisekedi Tshilombo. C'était au palais de la Nation à Kinshasa. Nous partageons les mêmes soucis avec les Congolais en ce qui concerne l'agression dans la partie est du pays, a-t-il indiqué. Pour en parler, Pelé Kipelamondo est avec nous en direct dans ce studio. Bonsoir Pelé.
Bonsoir Pascal. Au cours de cette conférence de presse, le numéro 1 sud-africain a promis que son pays continuera à soutenir la RDC dans les secteurs sécuritaires et dans les secteurs de développement. Nous allons renforcer notre partenariat et appliquer les résolutions sur la question sécuritaire proposées par nos experts, a expliqué Cyril Ramaphosa. Le président sud-africain promet aussi de travailler avec les autorités congolaises pour que les populations bénéficient des minerais exploités dans leur pays. Selon lui, les ministres des mines des deux pays vont créer le cadre de coopération dans les secteurs miniers. Il a aussi précisé qu'il y a une commission des mines qui va mettre les deux États ensemble dans le cadre de la SADC pour, je le cite, gérer nos propres minerais pour ne pas laisser la porte ouverte à ceux qui viennent sur le continent faire une extraction illégale des minerais africains. Fin des citations. Nous devons bénéficier de nos propres ressources naturelles pour apporter des bénéfices au pays, a-t-il renchéri. Cyril Ramaphosa estime que la coopération, notamment dans les secteurs de l'agriculture, du transport et de l'énergie, peut permettre aux populations des deux pays de travailler ensemble pour leur développement, hein, Pascal.
Merci Pelé Kipelamondo pour ces précisions. Notez que la RDC et l'Afrique du Sud s'engagent également à renforcer leur coopération bilatérale afin de faciliter le climat des affaires pour le développement régional. Des accords économiques et sécuritaires ont été signés à Kinshasa entre les deux États. Devant la presse, Félix Tshisekedi et Cyril Ramaphosa ont évoqué également le projet hydroélectrique de Inga 3 pour desservir les deux États. C'est en marge de la 12e session de la grande commission mixte entre les deux pays que les deux chefs d'État achèvent ce soir au Palais du Peuple. Les présumés auteurs des enlèvements à Kinshasa comparaissent devant le tribunal des grandes instances de la Gombe depuis mardi dernier à l'esplanade du ministère de l'Intérieur. Hier mercredi, le tribunal a identifié ceux qui ne l'ont pas été mardi dernier. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, enlèvement, assassinat et vol avec violence. Certaines victimes se sont est déjà constitué en partie civile. Au Lualaba, les ONG de défense des droits de l'homme et le cadre des concertations de la société civile dénoncent la mort lundi dernier d'un Chinois et son épouse à Kakanda. Ces structures affirment que ce deuxième meurtre en l'espace de 6 mois est de nature à décourager d'éventuels investisseurs. Comme l'explique Chandrak Moukad de la société civile, il est au micro de Jean-Ganouka Bongo.
Nous connaissons l'importance de ces expatriés qui viennent dans notre pays. Ils influencent sérieusement le développement, ils améliorent l'économie de notre province. Mais quand on enregistre des cas de criminalité aussi criante comme ça, ça va décourager même ceux qui sont ici. Ils vont voir qu'ils ne sont pas sécurisés et ceux qui avaient l'intention de venir investir au pays n'auront pas le courage de venir. Voilà pourquoi nous avons dit qu'il faut interpeller la responsabilité des autorités compétentes pour voir comment comment on peut protéger nos partenaires qui viennent pour soutenir l'économie de notre pays et le développement. Et nous avons aussi demandé à la justice de mener des enquêtes indépendantes, objectives, aboutir à sanctionner sérieusement, dans une justice équitable, tous les coupables qui seront trouvés dans ces meurtres. Nous avons demandé aussi à la population de protéger ces partenaires qui viennent à notre rescousse pour que l'économie soit maintenue. Nous voulons vraiment que tous nous puissions, de la même manière que nous protégeons les Congolais, nous devons protéger aussi nos investisseurs ou les expatriés qui viennent de n'importe quelle nationalité.
Autre nouvelle en plume, bref, au nord Kivu, la situation s'est nettement aggravée à Masisi suite aux accrochages entre les groupes armés locaux et les rebelles du M23. Selon des sources locales, depuis 4 jours en effet, ces affrontements sont signalés dans plusieurs villages de la chefferie de Bachali, territoire de Masisi, et une partie de celle de Buito, territoire voisin de Rutshuru. Ces affrontements ont repris ce jeudi matin autour de Nyamitaba, groupement de Bachali KMB, au lendemain de la reprise du dit village par la coalition APCLS de Janvier Kalahiri et Nyatura Bazungu hier mercredi, demain de rebelles du M23. Partons maintenant pour l'Ituri où le bureau de la CENI avec l'appui de la section des affaires politiques de la MONUSCO a lancé hier mercredi une campagne de sensibilisation de la population sur le processus électoral en RDC. Plus de 300 étudiants de l'université Shalom de Bounia ont participé à cette première journée. Objectif visé par la CENI, impliquer les habitants à chaque étape du processus électoral et prévenir en même temps d'éventuelles violences et la manipulation des acteurs politiques. Explication d'Isaac Rémoyopé.
Plusieurs questions relatives à l'organisation des élections telles que les problèmes de caution, de seuil électoral, les innovations de la loi électorale en matière de genre, par exemple, ont été abordées au cours de cette matinée d'information. Puis il y a eu des questions et réponses pour éclairer les étudiants sur ces processus. L'initiative très appréciée par les étudiants va permettre, selon eux, de lutter contre l'ignorance afin de tenir les élections apaisées. Le président du collège des étudiants indique que grâce à ces partages d'informations, les jeunes ne peuvent plus céder aux manipulations des acteurs politiques qui les poussent parfois à commettre des violences.
Ils ne pourront pas répondre favorablement donc au dit appel des manifestations sans tomber dans la manipulation ou bien en évitant celle-ci, quelle que soit sa forme.
Pour la CENI, cette sensibilisation vise l'inclusivité du processus. Parmi les populations ciblées par cette campagne, il y a également les chauffeurs de taxis souvent impliqués dans des actes de violence. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
On reste en Ituri où aucun regroupement politique n'a encore déposé la liste de ses candidats à la députation nationale, constat fait hier mercredi par le conseiller du président de la CENI chargé de l'éducation civique en mission à Bounia. À 10 jours de la fin de cette opération, Idriss Katengo demande aux partis politiques de faire diligence. Il est au micro d'Isaac Remoyope.
Les partis politiques, les candidats indépendants, les regroupements politiques sont dans l'attentisme. Ce qui est mauvais, ce n'est pas encouragé. Cette opération ne va durer que 20 jours. Mais si vous allez dans les BRTC, vous allez trouver qu'il n'y a pas d'engouement. Hein. Il n'y a presque personne qui est arrivé. Tout le monde attend la dernière minute. Or, plus on vient à temps, plus les agents préposés au BRTC ont la possibilité de corriger vos dossiers et vous donner le maximum de chances de voir vos candidats être investis. Par contre, si vous venez en retard, vous n'aurez même pas le temps de corriger le dossier. Or, la loi dit que si sur la liste, il y a un seul candidat dont les informations ne sont pas correctes, c'est toute la liste qui est rejetée. Alors, je crois que pour maximiser les chances, nous invitons vraiment les concernés, c'est-à-dire les candidats indépendants, les partis politiques, les regroupements politiques, à venir prendre contact rapidement avec les BRTC.
Ouvert hier à Yaoundé au Cameroun, le forum régional pour la prévention et la lutte contre les discours de haine se poursuit. La deuxième journée aujourd'hui est consacrée à la collecte des observations et amendements des experts des États membres sur le projet de la stratégie régionale sur les discours de haine en Afrique centrale. Cela en mettant en exergue leurs appréciations sur les documents. Patrick Sahel Mpoui, conseiller en communication et nouvelles technologies de l'information et organisation technique au CESAC et l'un des experts de la RDC à ses travaux de Yaoundé. Au micro de Pamela Loubaki, notre envoyé spécial à Yaoundé, il parle de la contribution de la RDC aux travaux.
Les médias se tiennent comme des caisses de résonance de partis politiques ou des autorités morales, c'est comme ça qu'on appelle en Afrique. Alors, nous, dans cette communauté, nous venons apporter cette pierre pour dire, aider l'Afrique afin que les dénonciers des médias ne soient pas des politiques. Là, les discours de haine ne passeront pas. Et aussi, ramener le train de vie des professionnels de médias, tant soit un peu à la limite vivable, pour que ce professionnel de médias ne vende pas son âme, ne vende pas sa pensée au prix de quelques billets. C'est ce que nous allons ramener aussi chez nous, essayer de dire aux professionnels de médias, prenez votre travail au sérieux. Vous êtes professionnels de médias, vendez l'information et la bonne information. Évitez celui qui vient avec des discours séparatistes. Ne vendez pas votre esprit au prix de quelques billets de banque. Vous êtes allé à l'école, nous avons étudié ce métier, nous travaillons comme professionnels, alors évitons d'être à la merci des politiques qui utilisent les médias pour déstabiliser la nation, pour déstabiliser les tribus, pour déstabiliser les ethnies. Et cela va changer si le professionnel reste professionnel.
Dans un autre chapitre, au Maïndombé, la flambée des prix des produits de première nécessité rend actuellement intenable la vie des habitants du territoire de Kwamout en proie au conflit communautaire entre les Teke et les Yaka. À la base, selon la société civile locale, la faible production des vivres et la montée du taux de démographie causée par la présence des milliers de déplacés. À Bandunduville, Irène Mboma.
Manger actuellement à Kwamout Cité devient de plus en plus difficile. Plusieurs produits de première nécessité se font très rares sur le marché et connaissent une hausse vertigineuse des prix. Par exemple, un sac de manioc qui se vendait à 30 ou 35 000 francs avant la crise sécuritaire se négocie actuellement à plus de 35 000 francs congolais dans cette partie de la province du Maïndombé. Une petite mesure de farine de maïs est passée de 800 à 1 500 francs congolais. La bouteille d'huile de palme qui se négocie à 1 000 francs est revue à 1 800 francs congolais. Les poissons sont carrément introuvables sur les marchés et cette flambée des prix concerne également les riz dont un gobelet coûtant initialement seulement 1 000 francs est passé à 1 800 francs congolais. Martin Souta, président de la société civile du territoire de Kwamout, parle des causes de cet état des choses.
Tous ceux qui habitaient les villages environnants Kwamout sont maintenant à Kwamout. La vie devient de plus en plus dure. Il y a la surpopulation et la production est moindre. C'est-à-dire que les gens ne s'en vont plus à la forêt pendant que la population est à la hausse.
Il s'est de noter que même les produits manufacturés aussi connaissent une flambée des prix ces derniers temps à Kwamout. Irène Mboma, Bandunduville, Radio Okapi.
Et puis proposer des recommandations pour alimenter la prochaine feuille de route du processus de Nairobi en vue de la réduction sensible des conflits liés à la transhumance bovine au Sud Kivu. C'est en tout cas l'objectif d'un atelier de 48 heures qui se tient depuis hier à l'hôtel Elisabeth de Bukavu. Cette activité de l'ONG Congo Peace Center est appuyée par la MONUSCO à travers sa section des affaires politiques. Des précisions à ces sujets avec le point focal du secrétariat technique du processus de Nairobi au Sud Kivu, Évariste Moufaoumé, le dit à Rachel Kessembangou.
Il y a différents experts qui viennent de différents territoires du Sud Kivu qui vont analyser profondément le contexte, le dynamique et toutes ces informations sont très importantes pour les canaliser vers les décideurs. Le contexte, qu'est-ce qui s'est fait au niveau communautaire, au niveau provincial et au niveau de Kinshasa. Il y a une proposition de loi qui est déjà introduite à l'Assemblée nationale, qui est sous examen dans une commission ad hoc. Tout ça, ce sont des efforts quand on voit la complexité de la question, mais aussi des démarches qui se font, non seulement au niveau communautaire, provincial et au niveau national. C'est quand même des efforts qu'il faut encourager. Nous allons chiter par des pistes et des solutions qui seront couchées dans une feuille de route et avec un mécanisme de suivi après cet atelier et avec une suite d'autres actions pour essayer d'appuyer les recommandations du processus de Nairobi. Parce qu'on les fait en lien avec le troisième round du processus de Nairobi et dont une de recommandations était de faire le lien entre les conflits et les ressources naturelles. La transhumance étant une partie des ressources naturelles, cet atelier constitue une de réponses de ces recommandations.
Actualité internationale.
La secrétaire américaine au Trésor est arrivée ce jeudi après-midi à Pékin. Janet Yellen doit rencontrer là-bas ses homologues chinois dans un contexte de restrictions commerciales renforcées entre les deux pays. Comme pour Anthony Blinken le mois dernier, personne ni côté américain ni du côté chinois ne s'attend du tout à une percée diplomatique majeure à l'occasion de cette visite officielle. Du Texas jusqu'à la Floride, le sud des États-Unis d'Amérique vient actuellement de traverser une vague de chaleur extrême et meurtrière. À Houston, par exemple, un ouvrier de chantier âgé de 24 ans est décédé d'une insolation. La température de son corps dépassait le 43 degrés. Le sort de ces ouvriers obligés de travailler à l'extérieur inquiète dangereusement de nombreuses organisations de justice environnementale, mais les autorités américaines tardent à réagir.
L'invité.
Notre invité, c'est le directeur provincial de la SNEL du Haut-Katanga. Mutombo Ngoy s'est plaint du vol des câbles électriques haute et basse tension dans son ressort. Il plaide pour la protection de ce patrimoine car le vol porte un coup dur à l'économie de la province. Il s'entretient avec Jean Gandou Kabongo.
Tombongoy, bonjour.
Bonjour, monsieur Jean Gandou.
Qu'est-ce qui explique le fait que ces derniers temps, il y a trop de coupures de courant électrique dans différents quartiers de la ville?
Les causes sont multiples, mais ici, nous pouvons épingler, entre autres, les vols récurrents des conducteurs en cuivre nés sur les lignes haute tension et les lignes moyennes et basse tension sur l'ensemble du réseau sud. C'est ce qui fait que nous avons plus de coupures intempestives liées à tout ça.
Quels sont les coins qui sont les plus touchés par les vols des câbles?
C'est pratiquement dans toute la région. Si je dis région, c'est la région d'exploitation. Nous avons la région ouest qui prend Colosie avec ses environs. Vous avez les centres et vous avez aussi les suds, Lubumbashi avec ses environs. Nous vivons ces phénomènes de vols de conducteurs. Non pas seulement ça. Cette fois-ci, même les câbles qui alimentent les lignes, les câbles de sortie cabine, avec les tableaux généraux basse tension, même dans les bois de sectionnement apparents. Tout ça font que les réseaux soient totalement perturbés avec des coupures intempestives. Les coupures intempestives, c'est sur l'ensemble du réseau. Vous avez les consommateurs domestiques, vous avez aussi les clients à cycle moyenne tension et haute tension. Donc ça concerne tout le monde. Je vous donne un exemple. Vous avez les deux lignes 120 de la centrale d'Enzilo au répartiteur ouest de Colosie, mais ces lignes subissent des vols systématiques. Toutes les 48 heures, les vols s'opèrent. Or, lorsque nous ne sommes pas en mesure d'évacuer ces 75 mégawatts qui sont produites par cette centrale d'Enzilo, l'impact est ressenti par tout le monde.
Prenons les deux derniers mois, c'est-à-dire le mois de juin et le mois de mai. Vous avez enregistré quel manque à gagner par rapport aux vols récurrents des câbles électriques?
Je ne peux pas vous donner des chiffres exacts, mais par estimation, ce sont beaucoup de millions de dollars. C'est-à-dire, lorsque nous prenons les coûts d'énergie non vendus chez nos clients haute tension, chez nos clients moyenne et basse tension, quand vous les prenez, vous évaluez, ce sont des milliers de dollars. Quand vous prenez les matériels qui entrent en ligne de compte pour remplacer tous ces câbles volés, représente un coût. Quand vous prenez la logistique qui est déployée, vous prenez les frais qu'on donne à tous ces intervenants qui se déplacent pour intervenir, ce sont des frais d'émission. Tout ça mis ensemble, c'est comme ça que j'ai dit, ce sont des milliers de dollars et la direction générale doit mobiliser pour que la continuité des services soit permanente. Lorsque ces vols sont récurrents, les interventions sont récurrentes, ce qui fait que les coûts deviennent aussi exorbitants.
Mais nous avons vu qu'ici à Lubumbashi, une politique que la SNEL a mise sur pied, notamment les remplacements des câbles en cuivre, en ceux en aluminium.
Ça continue d'ailleurs, vous allez voir que la direction générale a mis du paquet pour réhabiliter les anciennes lignes qui ont été vandalisées de l'ouest jusqu'au sud, les lignes haute tension. Non pas seulement ça, et ensuite par le remplacement des pylônes en cornière treillis par des monopodes. Donc tout ça, c'est la politique mise sur pied par la direction générale pour arriver à endiguer tant soit peu ces vols de conducteurs. Alors, à ce qui concerne les réseaux de distribution, nous continuons à les faire. C'est un investissement. Il faut avoir beaucoup d'argent pour que l'action soit permanente et aussi dans les délais. Donc nous les faisons suivant la disponibilité des moyens. Nous les faisons pour que là où on vole du cuivre, nous nous remplaçons carrément de l'aluminium et les choses avancent.
Quelle est la politique de la Société nationale d'électricité par rapport à la problématique de la distribution de l'énergie électrique?
Actuellement, la politique aujourd'hui, c'est arriver à fiabiliser la desserte en énergie électrique par des actions de remplacement des transformateurs avariés, par les actions de remplacement des conducteurs volés de cuivre par l'aluminium, par les petits assainissements du réseau et aussi par les travaux qui se font en amont, que ce soit dans les centrales et comme sur les réseaux de transport haute tension. Donc tout ça mis ensemble, je pense que les résultats concourent pratiquement à améliorer la desserte énergie électrique.
Avant de terminer, il y a l'expansion de la ville. Il y a certains coins qui sont toujours dans les noirs. Que compte faire la SNEL pour alimenter aussi ceux qui habitent ces différents coins?
C'est la politique au niveau, comme je l'ai dit, au niveau de la direction générale. Il y a tout un département qui s'occupe, si je peux dire, de toute cette planification et de l'extension du réseau dans un plan directeur qui est d'ailleurs en marche, qui est en train d'être fait. Je pense que toutes ces préoccupations sont mises, sont intégrées dans toutes ces études de développement et d'assainissement du réseau au niveau de notre direction générale.
Moutomango, je vous remercie.
Merci, monsieur le journaliste.
C'était donc l'invité de Radio Okapi ce soir, le directeur de la SNEL au Haut-Katanga, Mutombo Ngoy, était interrogé à Lubumbashi par Jean Ganduka Bongo. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir écouté. Merci à Richard Junior Kamunga qui l'a coordonné sous la supervision éditoriale de Pele Kipelamondo.